Merci, mon colonel. Nous allons passer à la deuxième partie de notre conférence. Vous connaissez la règle. Fermez vos téléphones ou mettez-les sur vibreur. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Puisque nous sommes à Goma, restons à Goma. Nous allons prendre donc la première question de Goma.
Ok. Monsieur le porte-parole, nous allons donner la parole à Monsieur Kenny de Reuters, qui va certainement poser la toute première question venant de Goma.
Oui, merci pour la parole. Donc, comme Madame Koum venait de le dire, je m'appelle Kenny, je suis de l'agence Reuters. Ma question est la suivante. Il est vrai que la brigade d'intervention rapide sera déployée d'ici quelques jours ici au Nord Kivu. Qu'est-ce qui va se passer si, avant le déploiement de la brigade en question, que le M23 arrive à prendre de nouveau la ville de Goma?
Merci pour la question. Il faudrait que nous clarifions cela une bonne fois pour toutes. Le nom de cette brigade, c'est la brigade d'intervention. Pas une brigade d'intervention rapide, pas une brigade spéciale d'intervention, mais brigade d'intervention. Ceci étant dit, le colonel est avec vous, je lui passe la parole.
Merci, monsieur le porte-parole. Je vous remercie pour votre question, mais je pense que des plans de contingence ont aussi été élaborés à cet effet. Et depuis que la résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité, nous sommes en train de travailler premièrement au déploiement de cette force au sein de l'entité globale qui est la force de la MONUSCO, mais aussi nous avons prévu des plans de contingence pour contrer toute velléité d'attaque ou d'offensive contre la ville de Goma. Vous comprendrez très bien que pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne pouvons pas les dévoiler à cette conférence de presse, mais rassurez-vous que toutes les dispositions ont été prises pour contrer ce genre de probabilité.
Nous prenons encore une deuxième question de Goma.
Nous avons une autre question de Goma avec Alain, de papy de Écho d'Opinion.
Oui, c'est M. Papi, au kit du journal Écho d'Opinion. Ma question, je la pose au colonel Bass. J'ai deux petites préoccupations. La semaine passée, le choix de l'Ouganda par le contingent sud-africain comme base arrière a créé beaucoup de tensions au niveau de la population congolaise. D'autant plus que l'aéroport de Kisangani est à 45 km de la ville de Goma. Pourquoi ne pas recourir à l'aéroport de Kisangani, que vous connaissez mieux, au lieu d'aller en Ouganda, où sera le passage, par exemple, de l'air matériel jusqu'à Goma. La deuxième question, face à une armée bien équipée de la MONUSCO, le M23 a démontré sa capacité de nuisance en arrêtant les camions de la MONUSCO pendant quelques jours. Et aujourd'hui, il continue toujours de menacer la MONUSCO ou la brigade. Si une fois ils intervenaient dans le Nord Kivu, croyez-vous faire face au M23, la brigade surtout qui va venir? Merci.
Merci pour votre question. Je commencerai par la première qui a trait au déploiement du contingent sud-africain, en précisant que l'Ouganda a toujours été une base logistique de la MONUSCO. Et à partir de ce moment, nous avons nos éléments qui transitent par l'Ouganda, par Entebbe plus précisément, mais je ne pense pas qu'il faille voir dans ce passage par l'Ouganda une quelconque tendance à vouloir poser des problèmes à ce niveau. Parce que tout le monde passe par l'Ouganda, même quand nous déployons en RDC, que ce soit avec la brigade d'intervention ou sans la brigade d'intervention, l'Ouganda est un État partenaire de la MONUSCO et nous avons déployé notre base logistique. Donc je pense que il n'y a rien à avoir de suspect dans cette histoire-là. Nous ne sommes jamais passés par Kisangani parce que nous passons par cet aéroport international qui a été choisi. Ceci étant dit, concernant les menaces proférées par le M23, relativement au déploiement de la brigade d'intervention, vous savez, nous restons sereins, nous continuons à travailler au déploiement de cette
brigade. Nous avons reçu mandat de déployer une brigade d'intervention au sein de la force de la MONUSCO qui aura pour mission principale de traquer et de désarmer les groupes armés. Donc, à ce niveau, les menaces proférées, je ne dis pas que nous n'en sommes pas sensibles, mais je dirais tout simplement ne perturbe pas notre dynamique de déploiement de la force de la brigade d'intervention en RDC.
Merci. J'ajouterai concernant la première question que ce n'est pas simplement une question de distance. Il faudrait que les aéroports que nous utilisons soient équipés avec le matériel nécessaire pour pouvoir pour qu'on puisse travailler. Vous savez que quand il faut décharger des avions, quand il faut décharger des engins lourds, on a besoin d'équipements spéciaux qui n'existent pas à Kisangani, alors que nous les avons déjà à Entebbe, où nous avons une base, comme l'a dit le lieutenant-colonel Bass. Nous prenons une dernière question à Goma avant de revenir à Kinshasa.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je m'appelle Fidel Bafilemba de l'ONG INAF Project. Alors, ma première question, c'est exactement à monsieur Manoudje. À quand finalement l'arrivée de madame Robinson, est-ce que son TDR a été déjà, disons, édicté et est-ce qu'il est rendu public? Est-ce qu'on peut y accéder? La deuxième question... Toujours à monsieur le porte-parole, nous savons que la MONUSCO fait partie des observatrices des négociations de Kampala. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'issue de ces négociations? Et la dernière question, c'est à monsieur colonel Bass. Le Rwanda a lancé un ultimatum de signer la clause de cessation avec les ACR pour ne plus permettre en tout cas le repatriement de réfugiés rwandais ou les Hutus FDLR. Et je me dis, cela intervient avant même la signature, avant le déploiement de la brigade. Que deviendra de ces FDLR? Est-ce que ça veut dire voilà, qu'on est en train de nationaliser, de congoliser ces FDLR au Congo? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Concernant votre première question, Madame Robinson est envoyée spéciale du secrétaire général. Donc, c'est au secrétaire général de déterminer quand est-ce qu'elle doit prendre fonction. Quant encore à son TDR, terme de référence, je crois que c'est à ça que vous faites allusion. Encore une fois, c'est déterminé par le représentant spécial, par le secrétaire général. Moi, je travaille à la MONUSCO, je ne peux que vous répondre de ce qui se passe dans la MONUSCO. Concernant Kampala, non. La MONUSCO n'a pas statut d'observatrice à ce qui se passe à Kampala. Mon colonel?
Oui, pour cette question, je pense que je vais la réorienter vers Kinshasa pour que le représentant du HCR puisse y répondre.
Est-ce qu'il y a, je pense que HCR n'est pas là, nous avons humanitaire. Oh, pardon. Ok, vas-y, s'il vous plaît. Simplice.
D'accord, je voulais juste dire que pour ce qui concerne le rapatriement, le HCR s'occupe des civils. Il faut que ce soit bien entendu. Les civils constituent donc le lot le plus important, en fait, dans le mandat du HCR. Nous nous occupons de rapatrier, n'est-ce pas, les réfugiés rwandais qui sont au niveau du Nord Kivu. Donc ce sont les civils. A priori, le HCR ne s'occupe pas, n'est-ce pas, des FDLR ou bien qui sont déjà armés, des personnes armées. C'est d'ailleurs pour cela que le DDR, au niveau donc de la MONUSCO, est en charge, n'est-ce pas, de pouvoir récupérer ces individus et en collaboration avec les autorités au niveau du Rwanda, travailler à ce que ces personnes puissent répartir chez elles. Donc voilà ce que je peux dire sur la question.
Merci. Nous venons à Kinshasa sur la droite. Première question, M. Omba.
Oui, Albert Omba, Numérica TV. Je reviens encore à la question de Goma pour le déploiement du matériel. Et est-ce que la MONUSCO, qui a connu l'expérience de la rétention de certains véhicules vers Goma, ne connaîtra pas le même sort pour l'évacuation du matériel qui doivent quitter l'Ouganda à travers ça pratiquement tous les territoires occupés par les M23, c'est-à-dire de Bunagana à Rutshuru, Katale jusqu'à Goma? est-ce qu'ils n'auront pas les mêmes difficultés? Deuxième question, il y a une action de sensibilisation sur la résolution 2098 qui est menée à Rutshuru par des ONG. Est-ce que la MONUSCO aide ces ONG à ce qu'ils fassent normalement leur travail sans entrave? Et la dernière question, c'est au Sud Kivu, c'est au colonel Bass. Il y a reddition de Mai Mai à Kutumba au niveau de Mississi. Et qui sera déployé vers Kavumu. Est-ce que vous avez eu la situation des FRF qui étaient en formation au niveau de Kananda vers Fizi? Quel est leur sort actuellement? Merci.
Merci beaucoup. Concernant la première question, est-ce que les M23 vont encore retenir des véhicules de la MONUSCO? Posez-leur la question. Moi, je ne sais pas. J'espère bien que non. En ce qui concerne la deuxième question, que des ONG sont en train de faire des campagnes d'explication sur la 2098, vous me l'apprenez, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, de toutes les façons, parce que dans tous les cas, la 2098 contient aussi une partie qui concerne les humanitaires, donc je pense plutôt qu'on devrait... se voir après cette conférence de presse. Nous allons peut-être appeler mes collègues qui sont là-bas sur place, s'ils sont au courant, ils pourront vous informer. Mon colonel?
Oui, merci. Si vous permettez, je vais rebondir sur la première question qui a trait au véhicule qui avait été arrêté à Kibumba et à Kiwanja. Il faudra préciser d'abord que ce ne sont pas des véhicules de la MONUSCO, c'est des véhicules appartenant à un contractant transportant du matériel des Nations Unies qui venait de Béni pour rejoindre Goma. Nous n'avons pas été informés au départ de ces véhicules, parce que habituellement, vous savez, nous escortons les convois lorsque nous en sommes avertis à temps. Donc, ces véhicules ont été arrêtés et il y avait effectivement un défaut de documents. C'est suite justement à cette arrestation que nous nous sommes déployés pour essayer d'aller régler la situation. Ça a été une situation assez critique pendant 2 jours, mais finalement, le M23 qui voulait ouvrir les conteneurs a pu manipuler les populations de la localité qui ont juste cassé un des cadenas, mais aucun conteneur n'a été ouvert. Ça, c'était une précision à faire. Maintenant, concernant la reddition de Mai Mai à Kutumba, effectivement, depuis un certain temps, il y a justement cette intention de reddition de Yakutumba, qui d'ailleurs est en train de sillonner le territoire de Fizi pour essayer de convaincre d'autres éléments à la reddition. Mais vous savez, lorsque ce genre d'activité est en train d'être menée, nous préférons ne pas communiquer là-dessus pour ne pas perturber le déroulement normal des choses, mais il faut se féliciter d'une chose. Déjà qu'il y ait des groupes armés comme Yakutumba qui expriment leur volonté de se rendre au FRDC. Et je pense que avec les actions que Yakutumba est en train de mener, on pourra voir d'autres groupes armés se joindre justement à cette dynamique de reddition qui pourra apporter un peu de paix aux populations civiles du Sud Kivu qui souffrent, comme vous le savez, des affres et des activités négatives de tous les groupes armés qui sont là-bas, que ce soit les FNL, que ce soit les Raja Mutomboki. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Maintenant, concernant l'entraînement des FRF à Kananga, vous me l'apprenez. Si vous êtes au courant, je pense que vous pourrez partager cette information avec la MONUSCO.
Merci. Une deuxième question. Oui, madame.
Christian Lekambo du journal Africa News. Ma question s'adresse au porte-parole Manoj. Monsieur le porte-parole, aujourd'hui la RDC devient encore une fois de plus perméable du côté de Zongo en Équateur avec l'accueil des réfugiés centrafricains. Ce n'est pas une première fois parce que on l'a déjà vu avec l'arrivée des FDLR et la conséquence, toutes les conséquences que ça donne aujourd'hui. Donc ici, je pense notamment aux conséquences comme l'amoindrissement des efforts qui ont été réunis jusqu'à ce jour et même la fragilisation de la RDC. quelles sont les mesures que la MONUSCO préconise à cet effet pour éviter qu'il y ait répétition, qu'il y ait encore cet effet de toutes les conséquences qu'on a vues avec l'arrivée des FDLR.
Merci beaucoup. Perméable, je dirais non. La République démocratique du Congo est signatrice de beaucoup de conventions sur le plan international. Et il est tout à fait normal qu'à un moment donné, lorsque un pays sur sa frontière, sur ses frontières immédiates, connaît une situation d'insécurité grave, qu'elle puisse donner asile à ces populations-là. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui reçoit des réfugiés. Si vous faites le compte, il y a beaucoup de réfugiés congolais qui sont aussi reçus dans d'autres pays. Donc ce n'est pas seulement le lot de la République démocratique du Congo, cela rentre dans le cadre d'une solidarité internationale qui lie tous les pays. Ceci étant dit, la situation que nous vivons à Zongo n'est pas une situation chaotique. Le gouvernement de la RDC est tout à fait au courant de ce qui s'est passé à Zongo. La population civile arrive à Zongo. Il y a aussi eu des militaires qui sont arrivés, qui ont été désarmés par les autorités de Zongo. Ce n'est pas la même chose qu'on a eu avec à l'est de la République démocratique du Congo, à l'époque avec le Rwanda, où on avait toute une armée, je dirais, qui a traversé en République démocratique du Congo avec la population civile. Donc, je ne pense pas que c'est une question de perméabilité des frontières, mais je pense que c'est vrai, cela va peser sur la République démocratique du Congo, mais c'est aussi une question de responsabilité internationale. Lorsque vous avez des populations sur vos frontières qui connaissent une situation difficile, vous avez l'obligation d'ouvrir vos frontières et de les recevoir. Et je pense qu'on doit saluer ce que la RDC fait aujourd'hui en essayant d'accueillir sur son sol la population de la République centrafricaine. Nous prenons une dernière question. Oui.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour la compte des Planètes Télévision. Monsieur le porte-parole, quelle est la réaction de la MONUSCO aux réunions publiques que le M23 organise pour le déploiement des brigades d'intervention? Merci.
Nous n'avons pas une réaction particulière. Comme vous le savez, le M23 occupe une partie de la République démocratique du Congo. La résolution 2098 est très claire. Elle demande au M23 de cesser immédiatement la mise en place d'une administration parallèle, de lever les barrières illégales où elle taxe tout ce qui se passe pour lever des fonds. Par conséquent, ce que le M23 est en train de faire entre dans la ligne droite de la conduite qu'elle a toujours eue, parce qu'elle pense être une puissance gouvernante des zones qu'elle occupe, mais tout ça rentre dans des activités très précises que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2098, lui demande de cesser immédiatement. C'est le gouvernement parallèle qu'il essaie de mettre en place. Nous passons sur la gauche. Où est le micro, s'il vous plaît, sur la gauche? Oui.
Merci, Saint-Germain, pour le compte du journal du Drapeau Blanc. Ma question, je l'adresse à Joseph Potopoto. Dans votre restitution, vous avez fait état de la réopérationnalisation du pont qui aura pour rôle celui de relier Kasongo à la ville de Kindu. La question est de savoir quels sont les garde-fous politico-économiques disposés de part et d'autre de nature à aider les usagers de ces ponts à faire une marche évolutive vers l'atteinte du tout premier objectif du millénaire pour le développement. J'ai cité la lutte contre la pauvreté. Les mesures économiques sont lesquelles? J'ai dit.
Merci. Je crois que nous avons une collègue de PNUD qui est avec nous dans la salle. Avec l'autorisation du porte-parole, je vais demander à Clarisse Moussiamé de pouvoir répondre à cette question.
Clarisse, pour nos collègues de Goma, je voudrais peut-être te mettre debout pour qu'ils puissent te voir. S'il vous plaît, tu es même ici, mets-toi à ma droite, il y a un micro ici.
Oui, si j'ai bien compris votre question, vous demandez quelles sont les garanties pour que on puisse assurer la protection, le suivi et l'utilisation de ces ponts. Disons, la réhabilitation de ces ponts fait partie d'un grand programme de relèvement communautaire. Ça veut dire que la réhabilitation n'est qu'un aspect par rapport aux activités de renforcement des capacités de population pour que ces populations puissent se créer un pôle économique. Dans les papiers, il a été dit que ces ponts étaient très utiles, très importants pour favoriser l'évacuation de produits agricoles. Vous connaissez mieux que moi que la province de Maniema, c'est une province agricole. Et donc la réhabilitation de ces ponts va permettre à ce que la population puisse évacuer ces produits et aussi va permettre un déplacement facile. Et vous parlez de l'objectif numéro 1 des objectifs du millénaire pour le développement. Bien sûr, c'est un grand programme. Comme on a dit, la pauvreté elle est complexe et il y a plusieurs domaines d'intervention dans lesquels le PNUD est en train de travailler, notamment dans ce domaine des relèvements communautaires.
Merci. Deuxième question, toujours sur la gauche.
Merci. Si c'est pour Horizon 33, on apprend l'arrivée de certains représentants des pays qui devraient composer la brigade d'intervention au Nord Kivu dans le cadre des tractations pour préparer le déploiement de cette force. Je voudrais avoir des précisions. Où vous en êtes exactement aujourd'hui là?
D'abord, il n'y a pas de tractation. Nous savons ce qui va se passer. Nous savons que les troupes viendront de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. En ce qui concerne leur installation, l'équipe d'ingénieurs est déjà sur place pour préparer le terrain et nous attendons dans les jours, les semaines à venir, l'arrivée des premiers éléments d'état-major. Donc, avant la fin du mois, les premiers éléments d'état-major seront sur place. Troisième question.
Oui, Monsieur Alain Waikani pour la RTNC, je pose la question au porte-parole Manoj Mounoubaï. Vous avez dit la fois passée qu'il n'y a pas deux mandats, il y a un seul mandat. On a juste ajouté quelque chose. Mais je voudrais comprendre le pays contributeur du troupe de la MONUSCO. Je parle de Pakistan, Guatemala et Maroc et les autres ont exprimé leurs inquiétudes, si pas l'inquiétude, mais peut-être peur de voir le mandat de la MONUSCO d'être amélioré pour qui devait exposer directement les ressortissants devant le feu du M23 et les autres groupes armés. Comme il n'y a pas de mandat, je voudrais maintenant savoir comment la MONUSCO va collaborer alors que les représentants de chaque de ces pays-là ont exprimé déjà leur peur. Est-ce que cela ne pourrait pas avoir des répercussions sur leurs troupes qui se trouvent sur terrain ici en RDC?
Non, quand vous dites que la MONUSCO va collaborer, encore une fois, il n'y a qu'une seule MONUSCO et un mandat. C'est la première fois qu'au sein d'une opération de maintien de la paix, on va inclure une unité chargée spécialement de faire de l'imposition de la paix. Comme je vous l'ai dit, c'est une expérience. Donc, comme toute expérience, je crois qu'il va falloir recalibrer les choses au fur et à mesure du développement sur le terrain. Il est tout à fait normal que les pays qui participent à l'opération de maintien de la paix expriment leurs appréhensions concernant cette nouvelle situation, mais tout le monde est au courant, tout le monde discute en même temps, nous sommes tous autour de la même table, la table des Nations Unies, donc attendons de voir comment les choses vont se passer concrètement sur le terrain, mais tout le monde est d'accord, il faut rester sur le terrain et s'engager résolument pour aider les Congolais à trouver une paix durable. Nous prenons une question à Goma.
Oui, monsieur le porte-parole, on voulait demander votre indulgence, si c'est possible d'avoir deux intervenants à partir de Goma. Nous avons Alain de...
Dans ce cas, nous donnons une question à chacun, pas de commentaires, directement les questions, parce que nous, pour une question de temps.
Merci. Merci.
Merci beaucoup. Moi, c'est Alain Tchouma, journaliste Radio Kivu 1. Je voulais un peu avoir la réaction du colonel Félix Bass, lui qui est porte-parole militaire de la MONUSCO, par rapport à la déclaration de du DM23 qui a dit qu'il va riposter en cas d'attaque contre ses positions par la brigade d'intervention. Et vous ne craignez pas aussi l'échec parce que le M23 prépare un échec contre les forces des Nations Unies.
S'il vous plaît, merci beaucoup d'avoir posé votre question. Nous prenons la deuxième question.
C'est Alain Alamé de Optionnel Télévision. Je voudrais m'adresser au chargé de l'humanitaire, donc le représentant de l'humanitaire. Actuellement, il y a une année que le SR avait affirmé n'avoir pas le nombre exact des civils réfugiés rwandais sous le territoire congolais et qu'aujourd'hui il y a des tractations de la clause de cessation. Comment éviter le risque d'apatridie pour cette population dont vous ne connaissez pas jusque-là le nombre?
Merci. Mon colonel, pour la première question.
Merci pour la question. Je voudrais rappeler à mon collègue d'abord que cette brigade d'intervention qui va être déployée va être déployée avec le soutien de la communauté internationale, car vous n'êtes pas sans ignorer que cette résolution a été votée à l'unanimité. Maintenant, les réactions que je considérerais peut-être épidermiques du M23 par rapport à cette situation, je l'ai dit tantôt, ne nous empêche pas de poursuivre notre travail dans la sérénité, parce que notre préoccupation majeure, que ce soit avec cette brigade d'intervention ou avec la brigade du Nord Kivu, qui est sur le terrain, notre préoccupation majeure, c'est la protection des populations civiles. Autant la brigade d'intervention aura une mission spéciale à l'intérieur de ce mandat qui nous a été donné, autant les autres composantes aussi de la MONUSCO qui font partie de la force contribueront à réduire à néant les effets négatifs que les autres groupes armés sont en train de semer dans la province du Nord Kivu. Donc en tout état de cause, nous n'avons pas pour le moment d'état d'âme, nous travaillons dans la sérénité, nous essayons autant que faire se peut et le plus rapidement possible de déployer cette mission et cette brigade pour qu'elle puisse remplir sa mission conformément au mandat qui nous a été donné.
Merci. Sylvain ?
Juste effectivement, nous n'avons pas réussi à déterminer le nombre de réfugiés rwandais vivant dans le Kivu. Et effectivement, avec l'appui des autorités congolaises, bien entendu, nous continuons de travailler à pouvoir identifier les réfugiés qui sont dans les zones dans les zones de Masisi, en tout cas au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu. Parallèlement à cela, effectivement, la question de la clause de cessation venant, ce sont les autorités congolaises, bien sûr, qui prennent le lead. Et nous travaillons avec elles de façon très régulière. En tout cas, nous avons des programmes au niveau du Nord Kivu, du Sud Kivu, aussi des questions d'apatridie où des populations sont informées, sont formées également sur les différents risques qu'elles encourent, bien entendu, pour pouvoir minimiser ces différents risques-là. Donc, nous avons des programmes à cet effet et nous, au niveau du Nord Kivu, nous travaillons effectivement pour que ces populations-là ne puissent pas courir le risque d'apatridie. Autrement dit, avec les autorités, nous espérons que le calme revenant au niveau du Nord Kivu, nous allons, n'est-ce pas, procéder très bientôt à ces différentes opérations d'identification de ces personnes.
Merci, nous avons 3 minutes. Nous prenons une question sur la droite, Chine Nouvelle.
Oui, c'est Steve Wembi pour l'agence Chine Nouvelle. J'ai une petite question. Monsieur le porte-parole, vous avez parlé de mesures que la MONUSCO a prises sur la suspension des officiers congolais qui ont été jugés pour viol dans le Nord Kivu. Est-ce que la MONUSCO n'est pas satisfaite de ces chiffres, 12? Et bien, vous voulez que les FARDC...
C'est pas définitif. Vous savez que d'abord, il y a eu 2 soldats qui ont été arrêtés. Maintenant, nous avons 12 officiers qui sont arrêtés, qui sont suspendus. Je pense que nous sommes dans un processus, attendant de voir la fin de ce processus. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas que l'enquête est terminée. L'enquête est encore en cours. Et au fur et à mesure, on nous informe. Une question sur la gauche pour terminer, au fond. Passez le micro tout à fait au fond. Merci.
Oui, c'est M. Samuel Mimbou du journal Explorateur. Je pose ma question à monsieur le colonel Félix Bass. Vous avez parlé qu'il y a 30 éléments composés des forces armées, dont des forces négatives qui se sont rendues. Quelle sera leur issue? Parce que ce n'est pas la première fois que les éléments se rendent à la MONUSCO. Merci.
Mon colonel, vous avez 30 secondes.
Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas bien.
Vous avez parlé qu'il y a 30 éléments qui se sont rendus à la MONUSCO. Quelle sera leur issue? Parce que ce n'est pas la première fois que les éléments se rendent à la MONUSCO.
Le sort des éléments qui, FDLR, qui se sont rendus...
FDR qui sont rendus...
Le sort des éléments FDR qui sont rendus...
Bien sûr, non, pas les FDR, c'est-à-dire que c'est un groupe de rebelles qui s'est rendu, ils appartiennent aussi bien au M23, à la PCLS, aux autres groupes armés. Mais une fois que ces gens se rendent à la MONUSCO, nous les donnons au DDR ou au DD3R, selon qu'ils sont congolais ou selon qu'ils appartiennent à des groupes armés étrangers. Donc la suite, c'est le suivi se fait au niveau du DDR qui procède ensuite à toutes les formalités administratives relatives à leur cas.
Merci mon colonel, merci à Goma, merci à vous qui avez fait le déplacement ici, merci à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct partout en République démocratique du Congo ou dans le monde sur Internet. Merci, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.